2, 1, 2, oui, ça marche. Bon. Test. Je m'entends pas du tout. Est-ce que je m'entends? Tu m'entends, toi? Moi non plus. Oh, oh. Oui. D'accord.
1, 2, 1, 2. Test micro, tu m'entends?
Très bas. Très,
un, deux,
très bas.
1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ouais.
Ah, c'est mieux.
Super.
Moi, je t'entends aussi. Eh ben, c'est super. Ça veut dire qu'on est prête.
On est prête, je crois.
Ouais. On fait un jingle improvisé.
Ok. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Si les infos.
Oui, alors, vous êtes sur Radio Klaxon, patati patata, 107.7. Et on avait envie de vous faire un petit créneau info, essayer de faire ça une fois par semaine. Là, on est en direct, mais il sera... Quand est-ce qu'il sera rediffusé?
En général, on essaye de faire ça le mardi midi. Là, on triche un peu, on le fait ce soir, mais on le rediffusera demain à midi, donc le mardi midi. Et on essaye de faire ça, de tenir ça un peu toutes les semaines. Du coup, si vous avez des infos à nous envoyer, des oublis du Zad News ou quoi, vous pouvez envoyer des messages au téléphone de la radio et on les diffusera. Et si vous avez des infos que vous pensez importantes, vous pouvez aussi venir une heure avant et ou nous les envoyer sur le téléphone.
Mais quel est le numéro de la radio?
Oh, c'est le 07 53 38 06 70 et peut-être on vous le redonnera à la fin.
Oui, et du coup l'idée c'est un peu de vous raconter ce qu'on a cherché ou sur quoi on est tombé comme info ou comme réflexion dans nos voyages sur le net ou dans la presse. En se disant, moi je me dis, on n'est pas du tout subjectif, objectif, au contraire. Plutôt, on choisit ou pas de vous dire des choses. Plutôt, ça fait chier de raconter que les trucs qui passent tout le temps dans la presse mainstream. Du coup, essayer un peu d'aller chercher les infos qui nous intéressent vraiment. Quoi d'autre?
Bah, du coup, on l'a appelé la revue de paresse parce qu'on fait un peu le boulot pour vous. On va décortiquer. Et c'est pas une revue de presse, c'est aussi qu'est-ce qui nous a causé, qu'est-ce qui nous parle. C'est pas du tout exhaustif, il n'y a pas tout, tout, tout. Mais voilà, c'est un peu un aperçu de qu'est-ce qui nous paraît important de parler. Et voilà. Et l'idée de le tenir chaque semaine aussi, c'est de redonner des nouvelles de choses dont on a parlé ou d'aborder des sujets qu'on n'aurait pas eu le temps là parce qu'il y a quand même énormément de trucs.
Oui. Et ben, on commence. On vous a préparé une petite agenda au début. On se dit comme ça, vous savez qu'est-ce qui se passe cette semaine plus ou moins loin. Et c'est quoi les rendez-vous qui nous semblaient importants. On n'a qu'à commencer avec un truc qui se passe à Nantes. C'est mercredi 16 novembre, du coup, après-demain, ou demain, si vous écoutez l'émission demain. Et c'est une banquet débat manif infokiosque contre l'état d'urgence. Et ça s'appelle contre l'état d'urgence résistance. Attendez, j'arrive. Et c'est à 17h30, c'est à place du Bouffet à Nantes. Et le tract, il est vraiment pas mal. Il raconte, je sais pas, je vais peut-être lire des bouts que je trouve bien. En fait, c'est un an d'état d'urgence. Ce 14 novembre 2016, cela fait un an que la France vit sous état d'urgence. Attendez, j'ai un problème technique. Ça s'appelle du Larsen. Alors, je recommence. Ce 14 novembre 2016, cela fait un an que la France vit sous état d'urgence. Pour le pouvoir, ce dispositif sert à réprimer les contestations sociales et à limiter nos libertés. Interdiction de manifestations revendicatives, assignation à résidence, perquisition de jour comme de nuit, hors de tout cadre judiciaire, couvre-feu, fermeture des lieux de réunion, etc. Décrétées dans un élan d'union nationale, ces mesures conduisent à l'isolement des individus et à l'exclusion des musulmanes ou s'opposaient-elles, de quoi nourrir les rancœurs et l'extrémisme. Contrairement à ce que les médias tentent de nous faire croire, ces mesures sont ni exceptionnelles ni ciblées. Dès le début, profitant des facilités de l'état d'urgence pour perquisitionner à tout va ou assigner à résidence, les forces de l'ordre ont visé des consommatrices de cannabis, des sans-papiers reconduites ensuite à la frontière, des militantes anticapitalistes et écologistes à qui on a simplement reproché la présence à certaines manifestations ou la distribution de tracts des citoyennes lambda. Des perquisitions qui, sur de vagues soupçons, débouchent sur le saccage violent du domicile. Des assignations à résidence qui sont toujours un enfer, empêchant toute vie normale pendant des mois. Voilà, après le texte, il est assez long, mais je vous conseille de le lire. Vous pouvez le trouver sur Indie Media. Et du coup, il fait lien aussi avec ce qui s'est passé cette année pour ce qui concerne les manifs contre la loi travail. Et comment, du coup, l'état d'urgence a permis à l'État de pouvoir mettre en pratique certaines stratégies, nouvelles stratégies policières, comme les interdictions, les manifs et les NAS.
Tu peux redire, du coup, quand c'est que ça se passe ?
Oui, c'est mercredi 16 novembre à 17h30 à Place du Bouffet.
Ok, du coup, c'est débat, rencontre, discute, c'est un peu ça le programme.
Oui, c'est un infokiosque qui dit débat, manif et
banquet.
Okay. Voilà.
Sur l'état d'urgence aussi, il y a le 26 novembre, il y a une espèce de table ronde organisée par Survie qui s'appelle « Bilan de l'état d'urgence et instrumentalisation de la guerre contre le terrorisme », avec « guerre contre le terrorisme » entre guillemets. Ça a lieu à Paris, à la Bourse du Travail, le 26 novembre. Et en gros, ce sera des témoignages, des analyses, l'envie de faire front commun contre la politique nationale, état d'urgence, répression, racisme et internationale, France-Afrique, interventionnisme militaire, coopération sécuritaire. Et il sera question d'un bilan d'état d'urgence, de son origine coloniale et de sa dimension raciste, mais aussi de ce qu'il dit de l'appareil répressif de l'État. Et il y a tout le programme détaillé sur le site de survie.org.
Ouais. Et ben moi je reviens à Nantes pour une autre info qui concerne le premier salon du livre libertaire. C'est samedi 19, du coup samedi prochain, c'est à B17. Et au programme, c'est du coup toute la journée de samedi et de dimanche. Samedi, ça commence à 13h. Voilà, il y a plusieurs interventions, il y a des tables rondes, il y a un apéritif le soir et une projection de « Je ne mange pas de ce pain-là » de Rémy Ricordo. Puis, discussion avec l'auteur. Je ne connais pas du tout ce film.
Moi non plus. Et il y a aussi un hommage à je crois que c'était un écrivain militant de Rosé qui s'appelle Benjamin Perret. Du coup, il y a pas mal de choses autour de lui. Présentation de son livre L'astre noir du surréalisme par Berthélémy Schwartz. Du coup, un gars du coin, un hommage à cette personne.
Du coup, c'est samedi de 13h à minuit et dimanche de 10h à 20h à B17.
Et il y a également à Paris un truc assez important qui se passe du 21 au 25 novembre. Il y a trois policiers qui vont être jugés à Bobigny. Et c'était trois policiers qui avaient tiré sur des personnes le 8 juillet 2009 à Montreuil, alors que ces personnes étaient en train de manifester suite à l'expulsion d'un lieu qui s'appelait La Clinique, qui était un lieu d'auto-organisation. Cinq personnes avaient été touchées au-dessus de l'épaule et il y a une personne qui a perdu un œil ce jour-là. Et là, on se retrouve 7 ans plus tard et les trois policiers vont finalement être jugés. Depuis, je crois que ça fait un an et demi, il y a le collectif 8 juillet qui s'est monté. Et leur but, c'est d'aller rencontrer les gens qui ont été frappés par la violence policière, des gens qui ont été mutilés par les flashballs et LBD, ou des proches de personnes qui ont été tuées par la police. Ils essayent d'aller voir les personnes et de raconter les histoires, de faire front ensemble, de se solidariser. Ils s'échangent pas mal d'outils, notamment sur le plan juridique. Et aussi, ils essayent de lancer des manifs, de prendre la rue, de s'organiser, de faire des concerts de soutien. L'idée, c'est de sortir de l'isolement auquel la justice comme la police veulent cantonner les personnes. Du coup, ce procès, il est assez important Et il aura lieu du 21 au 25 novembre. Et ce collectif 8 juillet appelle un peu à rassemblement. Et ce sera aussi l'occasion de faire entendre les histoires des personnes qui ont été blessées par la police, de combattre le déni des institutions, de mettre en cause la chaîne de commandement et de mettre en lumière la fonction de la police et de ses armes. Il y a un, je pense qu'il y a, je sais pas, là les infos c'est sur Paris Lutin Info par exemple qu'on peut trouver ça si jamais.
Et on passe à une dernière info, c'est on se rapproche du 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et on en parlera plus la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il y a déjà des choses qui s'organisent. J'ai un petit programme sous les yeux organisé par le planning familial 49. Du coup, ça se passe à Angers. Il y a plusieurs dates. Vous pouvez trouver tout ça sur Indie Media Nantes. Du coup, il y a des conférences, des débats sur le sexisme et la lesbophobie au travail. Il y a des questions à jamais posées à une personne transsexuelle. Il y a un spectacle de compte à rebours. Et il y a un café pédagogique sur le sujet de femmes et discrimination croisée. Du coup, tout ça, c'est à Angers. Je ne vous en dis pas plus. Je pourrais en parler plus, mais ça va devenir long. Du coup, vous avez qu'à chercher les infos vous-même. Voilà, ça c'était l'agenda.
Petite coupure musicale.
Oui. Et vous êtes toujours sur Radio Klaxon. On est toujours dans la petit point d'info, revue de presse là.
Revue de paresse.
Oui, de paresse, pardon. Et voilà, pour l'instant on a fait que l'agenda, comme d'habitude ça nous prend trois plombes. On imagine toujours d'être plus rapide. Mais on passe aux infos. Et la première info, c'est... j'ai pas envie de m'attarder, mais en tout cas, je voulais dire deux mots sur l'audience qui concerne Notre-Dame-des-Landes, qui était aujourd'hui à 14h, qui était il y a une semaine, pardon, et aujourd'hui à 14h, on a eu le résultat. Du coup, il y a une semaine, il y avait eu une audience devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Et la rapporteure publique avait demandé au magistrat d'annuler les arrêtés préfectoraux, loi sur l'eau et espèces protégées, qui autorisait la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et bah, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les sept magistrats ont rendu leur décision sur les recours environnementaux des opposants à Notre-Dame-des-Landes, et du coup, ils ont validé ces arrêtés. Du coup, voilà, ça veut dire que c'était peut-être une porte de sortie que l'État aurait pu prendre, mais c'est pas comme ça. Du coup, on est encore là. Et ce qui est bien, c'est que dans la presse, il y a la CIPA et d'autres opposants qui parlent et ils lancent un peu un message de puissant, comme d'habitude, de on sera toujours là. Et, avec notre détermination, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et la ZAD fleurira.
Et je crois que de son côté, Retailleau appelle à l'évacuation immédiate.
Merci. Oui, Alain Mustière aussi, il était très ravi, apparemment. Dans son Twitter, il a dit « Le droit est réaffirmé haut et fort, les travaux doivent commencer. » Il est super. Et... J'avais envie de dire deux mots aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, même si si vous achetez les journaux et tout, vous aurez dû entendre parler que de ça. Ça fait un lien avec la ZAD parce que sur Internet, il y a pas mal de gens qui écrivent des trucs dans des blogs et tout sur ce qui se passe. Et j'avais trouvé quelqu'un qui parlait de Notre-Dame-des-Landes et de la ZAD parce que ça parle de problèmes de démocratie. Il y a des gens qui, il y a plein de manifs qui se font en ce moment contre Trump. Il y a plein de gens qui disent mais c'est n'importe quoi. En fait, juste le système, il est comme ça. Du coup, pourquoi les gens ils manifent? Pourquoi ils se plaignent? Du coup, il y a des gens qui faisaient le lien avec la ZAD en disant mais en fait le système peut-être il va plus comment il est. Les gens ils en ont marre de ce système-là, il marche plus. Et en tout cas, il y a eu du coup dans les derniers jours plein de manifs dans des grandes villes. Avec des gens qui essaient aussi de se lancer sur une pétition pour que Hillary Clinton puisse devenir présidente. Ça a l'air complètement foireux. Mais ce qui est assez flippant, en tout cas, c'est voir comment assez rapidement, dès que Trump a été élu président, on a vu tout de suite comment il a réagi une certaine frange de la population avec des dizaines d'incidents xénophobes qui ont été signalés, plus de 200 seulement dans le premier week-end. Et il y a eu notamment des tags des svastikas accompagnés du nom de Trump et des inscriptions sur des murs Trump Nation White en laissant, ça veut dire la nation de Trump seulement pour les blancs. Du coup, ça fait un peu flipper. Et puis le Ku Klux Klan du Caroline du Nord a annoncé une défilée pour le 3 décembre. Du coup, je trouve que c'est un peu, ça fait peur. Voilà, c'était juste pour mettre l'accent aussi sur c'est quoi que ça implique en vrai dans l'immédiat quoi comme réaction de la part des gens. Et il y a des manifs aussi par contre qui se préparent en face. Et il y a une marche d'un million de femmes qui est prévue le lendemain de l'investiture de Trump qui sera le 20 janvier à Washington. Et les Afro-Américains aussi prévoient de manifester le 16 janvier à l'occasion du Martin Luther King Day, qui est le jour férié qui marque l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Voilà.
Ouais, ça rappelle un peu quand il y avait le coup d'État contre Erdogan. Là, il y avait eu après, je crois, plein de... Ça avait vraiment libéré pas mal de discours fachos et d'attaques des minorités, d'attaques des femmes, d'attaques des villages kurdes où il y avait eu des incendies. Enfin, ça rappelle un peu ça, hein, un peu une libération des violences que les discours font monter et que quand ça se libère comme ça, c'est assez flippant en fait.
Bah, ça donne une légitimité à certains discours que peut-être jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas trop. Le courage de sortir, quoi.
Ouais. Pour causer un peu de... à nouveau, de ces questions un peu de... frontières, migration, racisme, il y a eu un petit texte, là, qui a été publié sur Calais Migrant Solidarity, qui est le blog No Border des personnes présentes à Calais. Et il y a eu un travail d'un groupe qui s'appelle Calais Research Network qui a listé en fait des entreprises qui collaborent au régime de frontières à Calais et qui reviennent sur le rôle de Vinci lors de l'expulsion qui a lieu il y a 2 semaines. Et il y a une liste plus complète des entreprises responsables de la violence de la frontière sur leur site. Et par rapport à Vinci, il raconte qu'une de ses filiales, SNH, Sogea Nord Hydraulique, a encore joué un rôle majeur dans l'expulsion de la jungle, détruisant les abris et dégageant les décombres de ceux déjà brûlés. Cette entreprise avait rempli la même mission durant l'expulsion de la zone sud au début de l'année. Il y a la section CGT de Vinci qui s'est d'ailleurs publiquement opposée au rôle de l'entreprise dans l'expulsion de Calais. Eh bien, elle a raconté, la section CGT de Vinci, qu'en fait, les travailleurs avaient reçu l'ordre de porter des vêtements neutres, donc sans l'inscription de la filiale de Vinci, pendant l'expulsion, afin de ne pas être connus dans les médias. Et du coup, ça, c'est pour faire un peu écho avec l'expulsion non encore, qui se passe pas encore à la Z. Et à Marseille, il y a eu un bureau de vente immobilière de Vinci qui a eu toutes ses vitres éclatées. Et il rappelle que Vinci participe à la construction de plusieurs prisons. C'est Vinci aussi qui est en train de construire le mur anti-migrant à Calais et une partie du camp de container. Et voilà. Et il y a également un appel qui avait été publié sur Paris Lutte Info, Marseille Info, Nantes Indy Media, qui est un long appel qui s'appelle « Lutter contre la politique concentrationnaire des frontières ». Et où il y a une assez longue liste d'entreprises qui collaborent. Ça va de toutes les entreprises de technologie de contrôle, laser, scanner, tout ça, aux entreprises qui font des barrières, des barbelés, aux entreprises qui participent à déporter les personnes dans les avions ou autres. Et du coup, cet appel, il a envie d'être relayé et que les gens s'en emparent de la manière dont ils ont envie. Pour lutter contre cette politique des frontières. Il y a également un rapport, c'est ça le mot, un réseau qui s'appelle Migre Europe, qui est un important réseau qui bosse sur la question des frontières en Europe. Et ce rapport, il s'appelle « La détention des migrants dans l'Union européenne, un business florissant ». Et qui rappelle que ces dernières années, l'enfermement des exilés est devenu une filière très porteuse, dont tire profit un certain nombre d'acteurs privés, notamment les multinationales. Sa cartographie et sa présente la part croissante des entreprises privées dans la détention de personnes en migration. Et aussi, ça rappelle la collaboration des associations dans cette déportation et cette détention des gens. Il y a eu à Nantes, samedi, une manif qui était appelée à bouffer à 15h contre le racisme et les oppressions fascistes. Du coup, je vais vous lire un peu le texte d'appel à cette manif. Il y avait, de ce que j'ai compris, entre 150 et 200 personnes présentes à cette manif. Sous la pluie, c'était au départ pas très joyeux et pas très dynamique, mais il y a eu des prises de parole assez chouettes. Et ensuite, c'est parti en cortège. Et il y a eu de chouettes slogans, chantés, criés par les personnes présentes. Un petit tour du cortège qui est passé derrière la grande place, là, ensuite vers la préf, et c'est revenu par le cours des 50 otages. Et là, c'était vraiment carrément bien dynamique et bien chantant et bien déterminé. Et c'est revenu à Commerce parce qu'il y avait une manif après en soutien aux Kurdes et contre la répression du régime Erdogan. Du coup, plutôt une chouette manif et bien motivée. Et donc leur texte, je vais voir si je vais tout vous lire. Après un printemps de lutte sociale, d'espoir, de complicité, les semaines qui viennent de s'écouler marquent, sur le plan local comme national, un véritable retour à l'ordre raciste et sécuritaire. Tous les jours, l'Europe forteresse tue. Des milliers de personnes meurent chaque année à nos frontières, après avoir quitté au péril de leur vie les guerres, les gouvernements corrompus ou les désastres économiques. En France, la campagne présidentielle démarre sur un ton ouvertement identitaire et autoritaire, avec une omniprésence des discours hostiles aux migrants-migrantes et aux musulmans-musulmanes vivant en France. En parallèle, le gouvernement socialiste met en scène l'expulsion médiatique du campement de Calais, dispersant des milliers d'exilés sur le territoire sans véritable solution. Et surtout contre leur volonté. D'autres expulsions à coups de matraque continuent, notamment à Paris, où des centaines de migrants-migrantes sont également délogés. Nourris par ce climat politique, les groupes racistes passent à l'acte. Des centres d'accueil pour réfugiés sont incendiés en Isère, en Gironde ou dans l'Essonne. Sur le plan local, Nantes et ses environs demeurent des terres de lutte et d'accueil, où l'extrême droite n'est jamais parvenue à s'enraciner. Pourtant, le contexte récent n'est guère plus réjouissant. Un centre d'accueil pour les personnes migrantes est la cible de tirs d'armes à feu à Saint-Brévin. Un an plus tôt, à Nantes, des cocktails Molotov étaient envoyés sur des bâtiments occupés par des exilés. Les incendiaires n'ont jamais été retrouvés. L'extrême droite, hégémonique dans les médias, passe désormais à l'acte et prétend s'emparer de la rue ou s'infiltrer dans certains mouvements locaux. Ainsi, des dizaines de militants néo-nazis ont paradé à Nantes au mois de septembre en marge d'une manifestation. Aujourd'hui, ces individus entendent créer une antenne du GUD, groupuscule néo-fasciste violent, implanté à Lyon et à Paris, dans la ville de Nantes. Il n'y a pas de place pour l'extrême droite à Nantes. Le Front National, qui avait essayé d'ouvrir un local, a dû fermer boutique cet été, après avoir subi d'innombrables dégradations. Au printemps dernier, des militants d'extrême droite venus agresser les manifestants opposés à la loi travail ont été chassés. Du coup, c'était pour lutter contre l'implantation de cette antenne du GUD en particulier, qui avait cet appel à manif, et plus largement pour gueuler et crier notre rage contre le racisme et les oppressions fascistes.
On se fait un petit break.
Allez.
On écoute une petite chanson, mais restez avec nous, on a presque fini, mais pas tout à fait. Ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Vous m'entendez? Et ben, on est encore avec vous et on va finir cette revue de paresse comme on a prévu de faire chaque semaine. On essaye. On voulait vous parler du TES,
le fichier, je sais pas quoi, titre électronique sécurisé.
Oui, car il paraît. C'est la réalité. Le gouvernement a profiter du week-end de la Toussaint pour créer ce fichier à travers un décret. Du coup, c'est une base de données qui centralisera les informations de 60 millions de titulaires de cartes d'identité et de passeports. Wow.
Ok. Et je crois que c'est un fichier qui a été traité de fichier pétainiste par les mêmes membres du gouvernement en 2012 quand Sarkozy en avait parlé. Et c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui portent ce truc-là.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier ? Eh ben, plein d'informations, on dirait. Il y a le nom, le prénom, la couleur des yeux, l'adresse, la taille, la filiation parentale, l'image numérisée du visage, ainsi que deux empreintes digitales et la quasi-totalité de la population française, c'est tous les citoyens de plus de 12 ans, vont se retrouver dans une unique base de données à disposition des autorités. Wouhou !
Ça pourra être conservé pendant entre 15 ans pour les passeports et 20 ans pour les cartes d'identité.
Eh bien, c'est super ! Alors, bon, bien évidemment, ça plaît pas à grand monde. Déjà, il y a cette histoire de pas savoir pas savoir à quoi il va servir vraiment. C'est que même si le gouvernement maintenant il dit qu'il sert pour un truc, rien n'empêche un prochain gouvernement de l'utiliser pour autre chose. Déjà, ça. C'est sûr. Et puis, il y avait une histoire en ayant la numérisation du visage, ça serait vachement facile pour la police de savoir qui est dans une manif. Et après, de savoir comment les gens se déplacent, ce qu'ils font dans leur vie, en fait.
Et j'imagine que donner une fausse identité avec un fichier pareil doit être un peu plus compliqué parce que jusque-là, ils checkaient les fichiers des permis de conduire. Mais si tu disais que tu n'avais pas un permis, et voilà. Et dans ce cas-ci, j'imagine que ce sera un peu plus compliqué de tenir une fausse identité.
Oui. Bah, justement, dans un article sur Libé aussi, il disait voilà, un des risques, c'est que comme la fausse identité va devenir quelque chose de puni et de poursuivi, et bah c'est aussi à ça qu'il va qui va servir ce fichier. Et il parle aussi de risque de piratage parce qu'il dit aucun système informatique n'est impénétrable et en fait toutes les bases de données peuvent être piratées. Du coup, il se demande qu'est-ce que ces informations là qui sont vachement personnelles, du coup dans les mains de qui ils pourront facilement tomber, et aussi comment ils pourront passer les frontières, car Interpol et les autres pays membres de l'espace Schengen pourraient demander d'avoir accès à ces fichiers pour lutter contre l'usurpation d'identité ou contre des histoires de terrorisme, quoi.
Et donc il y a eu un petit peu des critiques mais au vu de l'actualité là, qui se passe par exemple aux États-Unis, j'ai l'impression que ça en cause pas tant. Et c'est Cazeneuve et Urvoas, je crois qui a récemment été nommé, qui sont derrière ce projet de fichier. Et quand je disais que c'était qualifié de pétainiste en 2012, c'est parce que c'était sous le régime de Vichy qui avait eu l'idée de la création d'un tel fichier, qui avait jamais été reprise depuis, sauf par Sarkozy en 2012. Et d'ailleurs, c'était quoi ? Sarkozy, il le surnommait ?
Le fichier des honnêtes gens.
Ah, super. Et du coup, ça avait été surnommé le fichier pétainiste. Donc, il y a quand même des critiques un peu qui sont sorties. Et apparemment, le gouvernement de modifier légèrement ce projet. Mais bon, le modifier pour qu'il passe plus rapidement et un peu plus joliment. Il y a des appels à lutter contre ce fichier, à aller dans la rue et à en parler. Il y a un peu des appels qui sortent là à se bouger contre ça assez rapidement.
Ok. Eh ben, c'est un peu fini pour les infos. C'était ce qu'on avait choisi de vous raconter.
Et comme c'était un peu waouh, un peu dur comme info, on va donner des bonnes infos et on va parler de la météo.
Des bonnes infos, oui.
Alors, on l'invente ou vous voulez la vraie ? Parce que la vraie, elle n'est pas très drôle. Alors bon, on n'aurait qu'à dire que...
Mais ce qui est bien, c'est que la météo, elle est souvent pas fiable.
Ouais. Et puis les nuits vont être belles, donc c'est déjà ça de pris. Hein.
Bon, allez, on leur donne la valeur.
Bah ouais.
Et bah, il pleut. Il pleut demain matin, un peu. Et puis, il pleut jeudi. Et le reste du temps, c'est nuageux. Voilà.
Voilà. Du coup, il aura plus jeudi, on n'aura rien fait. Et puis, on pourra aller à la rue des Abbes, aller voir les gens, au chaud, discuter.
Mais sinon, bah oui, bah, le temps, il a l'air de changer, car c'est la pleine lune. Et c'est une pleine lune spéciale. Alors, c'est le moment du point astronomie. Et car ce soir, du coup, lundi soir, c'est la plus grosse lune depuis 1948. Mais ça va pas être énorme non plus. Déjà, il faudrait qu'il n'y ait pas de nuages. Alors ça, c'est pas gagné. Et puis, vous voyez, la Lune, elle fait une orbite autour de la Terre. Du coup, elle tourne autour de la Terre. C'est pas un cercle, mais c'est un ellipse. Et c'est un peu allongé. Et c'est pas un ellipse parfait non plus. Et du coup, aujourd'hui, ce soir, l'orbite, le moment où elle sera le plus proche de la Terre, elle passera seulement à 356 509 km de la surface terrestre. Waouh!
Waouh, c'est tout! Elle est toute proche alors.
Ouais, elle est toute proche. Ça veut dire 400 km de moins que la moyenne des superlunes, des moments où elle est le plus proche, quoi. Et voilà, c'est estimé qu'elle sera 30% plus brillante et 14% plus grande.
Voilà. Et d'ailleurs, ça se passe tout de suite maintenant. Du coup, je crois qu'on on va arrêter la revue de paresse et on va aller regarder la lune. Ça te va ?
Oui, on fait ça, on fait ça.
On a un petit message. Peut-être qu'on peut vous lire. Peut-être c'est un message d'amour.
Peut-être pas.
Ah, attends, qu'est-ce que ça dit ?
Bah, on ne sait pas si ça vient d'un portable.
Ça dit, regarde par la fenêtre, on la voit.
Oui, bah, on y va. Bon, allez. Et bah, on vous laisse avec une petite chanson pour terminer. Et puis, rediffusion demain à midi. On rappelle le numéro de Radio Klaxon.
Oui, oui. Et c'est le 07, c'est le 53, c'est le 38, c'est le 06 et c'est le 70 à la fin.
Oui, écrivez-nous des textos, c'est super. On a l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est génial.
Puis, vous pouvez nous dire s'il y avait trop d'infos d'un coup, s'il n'y avait pas d'infos assez, et si voilà, c'était chouette ou si voilà, tout ça, on est preneuse.
Dites-nous.
Ciao, ciao.
Ciao.
Good night.